Et Gérald Jonta d'ailleurs disait, oh là là, si j'avais su, j'aurais dû signer un truc de royalties, parce que en fait son dessin, il l'a vendu quelques dizaines ou quelques centaines de francs à l'époque.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Laurent Picciotto. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation.
Merci Clément.
Et nous revoici dans un nouvel épisode des Chroniques horlogères où justement on va partir à la rencontre d'Audemars Piguet parce que justement tu as été la toute première boutique en France, Audemars Piguet, si je ne m'abuse. Et bah, ma toute première question, c'est comment as-tu connu la marque Audemars Piguet?
74.
Ok,
Deux ans après l'arrivée de la Royal Oak. Donc 74, j'ai 13 ans. Et mon père m'emmène place Vendôme, au premier étage de chez Chaumet, où il y a un multimarque qui s'appelait Les Temporelles,
Ok.
où le premier vendeur était François Bedet, qui a été sensiblement longtemps après patron de Breguet pendant un temps. Et il achète une Royal Oak, double signature, Audemars Piguet, Chaumet,
Ok.
série A. Et moi je regarde ça comme s'il avait acheté la montre de Star Trek. Là il m'explique la révolution que cette montre représente. Et qu'est-ce que c'est Audemars Piguet avant la Royal Oak?
D'accord.
C'est-à-dire des montres rondes,
C'est vrai, ouais.
où il y a des pièces compliquées, hein, il y a des calendriers perpétuels, il y a des chronographes, il y a des pièces squelettes, il y a des pièces de forme, qu'il a déjà achetées auparavant d'ailleurs. Mais là, il dit, bon, là, on rentre dans autre chose. Parce qu'à cette époque aussi, une montre de sport, c'est pas une montre de luxe.
Oui.
Et là, pour une fois, c'est une montre de sport. Alors avec des guillemets, parce que c'est pas une G-Shock non plus, mais en tout cas, c'est une montre de sport de luxe. C'est le bracelet intégré. C'est l'acier au prix de l'or ou du
À l'époque,
platine.
ouais.
Voilà, donc je découvre cet univers au travers de la Royal Oak ce jour-là.
Mais est-ce que quand tu l'as vu la première fois ou même mais quelques années plus tard, est-ce que c'est une montre que tu apprécies, enfin que tu as appréciée?
Oui, bien sûr. Mais si tu veux, à 13 ans, bon,
Oui, bah oui. Mais tu es encore un peu trop jeune.
si mon père me la prête 3 secondes pour la regarder, c'est déjà beaucoup. C'est une montre d'adulte dans mon esprit à l'époque. Mais à l'époque, je ne sais pas que quelques années plus tard, je vais vendre des centaines de Royal Oak. Donc c'est amusant parce que donc après avoir fait différents métiers et avoir eu l'envie à un moment de dire bon bah, je vais ouvrir une boutique d'horlogerie avec ce qui m'amuse, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, c'est-à-dire pas forcément les codes horlogers de je prends des marques qui se vendent, mais je prends ce qui me plaît. Évidemment, dans ma liste, il y a Audemars Piguet.
Oui.
Et donc je démarre Audemars Piguet en 91,
OK.
en multimarque. Et alors avec des collections qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui, avec certaines pièces qui sont devenues des pièces plus que difficiles à trouver à des prix absurdes,
Stratosphérique.
mais aussi de la joaillerie, des pièces qui étaient des icônes aussi dont on parle plus beaucoup. Je pense à la montre. La philosophique, par exemple, une montre
D'accord.
avec une seule aiguille et deux fuseaux horaires, qui était une montre très, très singulière, très audacieuse pour l'époque, en homme ou en femme d'ailleurs. Et donc, je travaille la marque de 91 à 97 avec un grand plaisir au travers de, évidemment, la Royal Oak, mais pas que. Et on travaille sur les millénaries, on prend le premier coffret millénaries de l'époque, tiré à 3 exemplaires, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus bien. Et puis à un moment donné, François-Henri Benhamias arrive du monde de la mode Et il vient me voir et il me dit « Bon, voilà, je veux bientôt travailler chez le distributeur français, qui à l'époque est Michel Niarquin, qui distribue un assez grand nombre de marques, et dont Audemars Piguet. » Et François vient me voir en me disant « Bon, je vais venir te voir, on parle, tout ça. » Je lui dis « Non, c'est pas la peine. » Je lui dis « T'es pas encore rentré dans la société. » Et si ça se trouve, peut-être que dans 6 mois, tu ne seras plus là. Donc, rentre dans la boîte, apprends déjà de quoi on parle, et puis on se verra plus tard. Ah, tu le prends comme ça Non, bah, c'est juste que c'est mieux de parler avec quelqu'un qui est déjà au moins depuis 6 mois dans la boîte, alors que tu n'es même pas encore rentré. Donc, c'est mieux, ok. Et puis donc il rentre dans la distribution Audemars Piguet, et puis 6 mois plus tard il vient me voir et on discute, on va déjeuner, et je lui dis écoute, au bout de 6 mois t'en sais plus que des gars qui sont là depuis 6 ans quoi, donc chapeau, et à mon avis ça va bien dépoter quoi. Et puis très vite il est parti en Suisse chez Audemars, ensuite à Singapour, ensuite il est revenu, et puis tout le parcours qu'on connaît, après la direction des États-Unis et tout ça pour finir CEO d'Audemars. Et donc François, il arrive, bon d'abord c'est quelqu'un qui comprend très vite, qui absorbe très vite les informations. Et j'ai envie de dire, très vite, bon, à l'époque, il faut savoir que Audemars est co-dirigé par Jean-Jean Imelan et Steve Urquhart.
D'accord.
Donc, c'est une co-direction, ils sont co-directeurs généraux. Et il devient très copain avec Steve parce qu'il fait du golf et qu'il est pro. Donc, et très vite... Il vient me voir, donc en 96, et il vient me voir avec Steve et ils me disent « Voilà, on a envie d'ouvrir une boutique Audemars, il n'y a pas vraiment de boutique Audemars. Il y en a une en Suisse, bon, en marbre vert, qui est là, bon, un peu comme une sorte d'emblème ou de showroom. Mais ça nous intéresse. » Et donc, ça veut dire que ça, ils le font bien avant que pas mal d'autres maisons s'intéressent
au sujet
d'avoir sa boutique de marque sur rue, quoi. En propre ou en collaboration avec un détaillant. Donc, on fait cette boutique.
Ouais.
Donc, ce sera la première, non pas en France, mais pour moi, en dehors de la Suisse, une des premières au monde.
Ok.
Et puis, ils ont tout à apprendre parce qu'ils ne savent pas... Qu'est-ce que c'est une boutique? Qu'est-ce que c'est un client? Etc. Enfin, je veux dire, la boutique à certains moments est mal livrée. Je leur dis, c'est quand même Audemars Piguet qui est marqué en haut. Alors aujourd'hui, ça fait sourire parce qu'il n'y a pas de montre, même dans une boutique Audemars Piguet chez eux. Mais à l'époque, c'est pas tout à fait logique. Et puis donc, on a fait ça pendant une dizaine d'années, donc qui ont été les années très punchy, je veux dire, où il y avait... les opérations de la Coupe de l'América avec Alinghi, donc des séries limitées Alinghi. Il y a eu Schwarzenegger par l'intermédiaire de François avec End of Days sur un offshore PVD, cadran noir, aiguille, chiffre jaune, où on était à Los Angeles pour le lancement du film avec Schwarzy, etc. Enfin bon, donc il se passe beaucoup de choses. Et puis François, en fait, réveille le marché américain, alors que c'est un marché extrêmement compliqué et que personne n'y était arrivé jusque-là. Jusqu'au jour où, en gros, il dit « Moi, je suis capable de faire la même chose que j'ai fait aux États-Unis, mais pour le monde entier, si vous me faites confiance et que je prends les rênes de la maison. » Et puis, c'est ce qui s'est passé. Et il a plus que doublé, voire triplé le chiffre d'affaires d'Audemars Piguet et a fait un boulot assez incroyable. En étant très... C'est un puncher, hein, François. Hein, je veux dire, on n'est pas dans le... il ne ressemble pas à beaucoup de CEO, on va dire, plus posés, qui regardent les choses de façon peut-être plus calme, mais qui ont du mal à sortir du cadre. Alors que François, okay. Il n'a aucun problème à sortir du cadre et à dire « on va essayer, on va le faire ». Et ça lui a vraiment réussi, et pour la marque également. Donc on a traversé en fait ces années en multimarque qui étaient fantastiques. La boutique, ça a été 10 ans vraiment fantastiques, parce qu'on a participé à beaucoup de... On a fait nos propres séries, on a fait des chronos Kasparov, tout titane micro-billets, à une époque où Audemars n'avait pas tout à fait... Qu'est-ce que c'était que micro-billets des pièces.
Okay.
On a fait encore 50 offshore par la suite sur caoutchouc, pareil, titane micro-billets, etc., qui sont des pièces qui circulent encore aujourd'hui au second marché de façon très successful. Donc, on a cultivé beaucoup, je dirais, toutes les informations, toute l'histoire d'Audemars, qui est une histoire très riche, très, très intéressante. Bon, moi, j'avais démarré avec Gérald Janta, donc
oui.
Gérald, à la fin de sa vie, continuait de venir ici. Alors, il ne comprenait pas bien, parce qu'il disait « Ouais, mais qu'est-ce que c'est, l'offshore ?» J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Enfin bon, il y avait des polémiques comme ça qui étaient assez amusantes. Mais la marque, elle a été... Et alors que quand tu regarderas les catalogues de l'époque, je veux dire, bon, il y a quelques Royal Oak, mais il y a beaucoup d'autres montres. Et puis de plus en plus, la Royal Oak a mangé
tout le reste, toute
l'image, même si aujourd'hui, il y a les expériences Code 59, comme il y a eu la millénarie, comme il y a eu, je te disais, la philosophique, ou des quantièmes sans nom, ou des squelettes, enfin, ou plein de choses vraiment fantastiques. Donc il y a une histoire fabuleuse, très longue, avec un outil de production fantastique. Voilà, c'est enfin schématiquement l'histoire d'AP, en tout cas au travers de ce que j'ai vécu avec eux, c'est ça quoi. Mais avec ce côté... ce côté assez incroyable de cette bon sang de Royal Oak, si tu veux, qui est un véritable événement, donc en 72, capte l'attention de beaucoup de monde. C'est pas un succès dingue à l'époque. Je veux dire, d'abord parce que c'est pas le même marché, comme on en parlait une autre fois, mais aussi parce que, bon, une montre en acier à 13 000 francs français à l'époque, bon, c'est... Aujourd'hui, ça fait sourire, bien sûr, mais c'est devenu, au fur et à mesure du temps, une référence, une icône absolument incontournable. Et Gérald Janta, d'ailleurs, disait « Oh là là, si j'avais su, j'aurais dû signer un truc de royalties », parce qu'en fait, son dessin, il l'a vendu quelques dizaines ou quelques centaines de francs à l'époque. Mais comme il faisait avec beaucoup de monde, Mais bon, il avait dessiné vraiment quelque chose qui sortait du lot clairement quoi.
Ça c'est clair. Donc, mais tu commences Audemars Piguet en multimarque. Est-ce que quand tu ouvres, il y a un attrait pour la marque ?
Ben il y a déjà des clients qui existent depuis fort longtemps en fait. Hein, je veux dire, qui sont réceptifs, qui connaissent et qui suivent l'évolution de la maison et qui achètent les choses qui les interpellent. Donc, je veux dire, dans les marques, on va dire, historiques, incontournables, institutionnelles, bon, bah, Audemars fait partie des meubles, même si les collections de l'époque sont plutôt un peu éloignées de ce qu'on a vu ensuite dans le développement des années qui ont suivi. Mais c'était une marque déjà très complète, que ce soit en joaillerie, que ce soit en complications, en monde de sport au travers de la Royal Oak. Il y a eu l'offshore par la suite, mais ça c'est venu quand même longtemps après. Mais quand tu regardes toutes les évolutions et surtout tous les modèles qui existaient à l'époque, il y a eu plein de modèles fantastiques, classiques, un peu moins classiques. Il y a notamment un certain nombre de montres de forme qui étaient intéressantes. Après, il y a eu des choses qui n'ont pas vraiment fonctionné, mais je veux dire, il y a eu des Royal Oak rectangulaires, il y a eu des choses... Et des choses un peu qui paraissent un peu désuètes aujourd'hui, mais enfin, il y a eu un certain nombre de... En tout cas, c'est une marque qui a eu, finalement, et je pense que ça correspond effectivement aux années 70 par rapport à cette Royal Oak, pas mal d'audace. Et finalement, je pense que Ben Ammias, ce qui le caractérise, c'est aussi son audace. Donc finalement, tout est normal.
Ouais.
La logique s'est rencontrée, quoi.
Et, mais tu me racontais, mais juste avant mais qu'on enregistre l'interview, que bah, tu as fait multimarque et ensuite tu as ouvert
La boutique Audemars, ouais.
la boutique Audemars.
Donc c'était 97 jusqu'à 2007.
Ok. Et justement, avant la boutique, ils avaient des codes assez particuliers d'un point de vue image de marque, et que justement la boutique a permis d'aller vers
Non, alors ce dont je te parlais, c'était qu'en fait, la charte graphique
Oui.
au niveau d'Audemars, bon, c'était du vert un peu nuancé, c'était du marbre vert. Et quand on a fait cette boutique, Xavier Casal est intervenu sur les dessins, qui était un vieux pote de François Benhamias, et il a dessiné quelque chose de beaucoup plus moderne, contemporain. Et donc on a fait une façade avec un mouvement de montre enfin, gravé sur le verre.
Ouais.
Au début, c'était gravé en verre sur un fond de verre dépoli.
OK.
Par la suite, on a changé où c'est devenu le mouvement en dépoli sur un verre transparent. Mais d'un seul coup, ça a remis en perspective toute la charte graphique de l'intégralité de la maison Audemars. Donc c'était assez amusant de voir que le dessin de Xavier Casal, au travers de cette boutique rue Saint-Honoré, avait réveillé toute la charte graphique corporate de la maison Audemars. Bon, après, ça a duré un certain nombre d'années, et puis ça a encore rechangé. Mais en tout cas, on n'est
Fur et à
pas
mesure.
tout à fait éloigné des codes qui avaient été réinventés d'une certaine façon à l'époque.
C'est vrai. Et mais quel était ton, enfin, mais quel était ton lien avec François-Henri Benhamias?
Ben François, comme je te disais, moi, il est venu me voir.
Par
Bon.
opportuniste?
Non, il est venu, voilà, je suis nouveau, on parle, machin. Bon, alors, on a mis 6 mois à vraiment se connaître, enfin, vraiment se rencontrer. Et puis ensuite, bon, il venait souvent me poser des questions sur tout un tas de choses. Il connaissait, encore une fois, c'est quelqu'un qui apprend très vite, hein, donc il s'est occupé du marché français un temps, et puis ensuite il est parti voguer vers la Suisse, Singapour, les États-Unis. Et entre-temps, enfin, je veux dire, donc en 97, il était à l'initiative au travers de Steve Urquhart pour ouvrir cette première boutique. Voilà, après, mais on s'est connus le jour où il m'a dit, voilà, je vais rentrer chez Audemars. Moi, je ne connaissais pas François avant. C'est amusant de voir que, je veux dire, plus de 30 ans après, bah d'abord, il a vraiment été aussi loin que ce qu'on pouvait imaginer par rapport à la rapidité qu'il a d'appréhender les choses. Et puis, bon, aujourd'hui, il nous dit qu'il s'en va l'année prochaine. Ok, bon, qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas.
Qu'est-ce qui va se passer?
Et puis, la vraie question aussi, c'est, parce que c'est toujours la grosse question dans une maison, parce que ce sont les hommes qui font et qui défont les marques, ça va pas être simple pour son successeur. En tout cas, ça va pas être simple de le trouver, de le choisir, et ça va pas être simple pour lui d'être à la hauteur de tout ce qui a été fait sur ces années Benhamias.
Ça, c'est clair. Et de ton point de vue extérieur, comment vois-tu la marque aujourd'hui et la marque d'ici les prochaines années?
C'est difficile à dire pour moi, puisque bon, nous maintenant on a arrêté Audemars, mais enfin, comme tous les détaillants, puisque en fait il y a déjà quelques années, Audemars a décidé d'arrêter la distribution et de ne vendre qu'au travers de leur propre boutique. Bon, je ne suis pas convaincu que ce soit, sans me mettre en position de détaillant ou de regret, mais je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée, parce qu'on a besoin quand même souvent, enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'amateurs et de collectionneurs, ils ne collectionnent pas forcément qu'une seule marque.
C'est vrai.
Donc ils aiment bien confronter, comparer, centraliser leurs achats chez un multimarque. Bon, ça c'est un point. En fait, aujourd'hui, on a quand même le sentiment, dans des marques qui réussissent, comme c'est le cas pour Audemars, que quoi qu'ils sortent, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est un succès. Moi, je me méfie toujours un peu de ça. Aujourd'hui, je suis un peu moins réceptif. Pas surtout, mais sur une frange de modèles d'un seul coup, on assiste quand même à énormément de déclinaisons,
ouais.
Que ce soit en jeu aérien, que ce soit en, en combinaison de métaux, etc. Je ne sais pas si c'est... Alors oui, ok, ça fonctionne, mais je ne sais pas si c'est forcément positif, quoi. En tout cas, bon, maintenant, je parle pour moi. Hein. Mais là encore, c'est, si tu veux, souvent quand même l'idée que... Je pense que la marque, de toute façon, elle est installée pour longtemps. Mais il faut toujours se méfier. Je veux dire, il peut y avoir... Alors bon, ça, c'est d'autres raisons. Hein. C'est des raisons technologiques. Mais personne ne pouvait imaginer que Kodak, un jour, soit une société qui disparaisse.
Enfin, c'est vrai.
Ça paraît insensé. Mais au-delà du problème de technologie qui est venu mettre sur la touche une boîte comme Kodak, on peut penser aussi qu'ils n'ont pas forcément géré le truc comme il fallait, qu'ils n'ont pas vu les choses venir d'une façon ultra vigilante. Donc l'idée, c'est quand même de dire, une marque, pour qu'elle dure, il faut d'une certaine façon pas céder à la facilité. Et parfois, on peut avoir le sentiment, surtout quand il y a des modèles où certains clients disent ah, ça sort, on est en train de sortir pas des codes, mais en tout cas, on nous avait pas habitué à ça. Alors parfois c'est positif parce que l'audace elle nécessite de faire des ruptures, puis parfois ça peut être un peu plus dommageable. Mais pour autant, bon, je veux dire, Audemars a pas de nuages à l'horizon de mon point de vue. Hein.
Ça, c'est clair. Bah, merci à toi, Laurent.
Je t'en prie.
Une nouvelle fois. Et puis dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on vous retrouve pour un prochain épisode. Salut.
Au revoir.